Bonjour à toutes et à tous, curieux et curieux, citoyens circonspects, agris, révoltés, maraîchers ou bergers qui dénoncent l'agri-voltabique. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur une promesse. Merci Marie. Oh. Quel public sur une promesse, un nouvel Éden qui permettrait de produire à la fois de la nourriture et de l'électricité renouvelable, un nouveau en même temps, une promotion de gondole, un watt produit, un kiwi offert. Un concept créé par les intéressés eux-mêmes, ceux qui commercialisent les panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, et aujourd'hui inscrit dans la loi, l'agrivoltaïsme. Aujourd'hui, on se penche sur les hic de l'agrivolt à l'occasion de la constitution d'un nouveau collectif d'habitants, non pas à la Blachère, où trois projets ont été autorisés par le maire, qui est décisionnaire, mais à Saint-Didier-sous-Aubenas, où les habitants ont découvert l'installation future dès septembre d'une centrale photovoltaïque, de presque 3 hectares. Ce collectif dénonce deux problèmes en un autre en même temps, un problème de démocratie locale et une constellation de problèmes liés au photovoltaïque sur des terres agricoles. Pour en parler avec nous ce midi et dans les studios de Fréquence 7, Pascal Harder, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avec nous aussi, évidemment, toujours derrière la vitre. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
À la réalisation de cette émission. Et puis aussi, à côté de moi, vous l'aurez entendu dans cet éclat de rire, Marie, puisque nous sommes mardi. Salut Marie.
Salut Sophie.
Marie, eh bien c'est à toi un petit point agenda.
Ok, on commence à Montpezat, sous Boson, jeudi 20 mai à 18h, salle polyvalente. Théorie du complot et intox commence en sortir, conférence animée par André Dumoulin, professeur honoraire de l'Université de Liège, faculté de droit, sciences politiques et criminologie. Spécialiste dans le domaine de la défense européenne. C'est entrée libre.
C'est le 30 mai, c'est
oui.
Ça, moi j'avais entendu le 20 mai, donc jeudi 30 mai à Montpezat, à la médiathèque de Montpezat.
Oui, je ne me suis pas trompée.
Non, j'ai mal entendu. Bon, peut-être je ne suis pas la seule.
Oui, non, 30 mai.
Merci.
Alors, attends, ouais, j'ai fait comme d'habitude. Alors non, des bêtises. Maintenant, on est au 29 mai, le mercredi.
D'accord.
Fait jeudi avant mercredi, c'est pas grave. À Aubenas, salle Le Bourneau, deux spectacles proposés par le festival Parole au Festival. À 15h, traversée du Mogo, Marius Sawadogo, conte, danse et musique africaine. Accompagné de plusieurs instruments traditionnels miniatures africains, Marius nous propose avec jubilation la rencontre de la parole d'aujourd'hui qui est née d'hier et qui se nourrit de celle de demain. Spectacle joyeux participatif qui nous emmène au Burkina Faso à travers des récits et des contes réinventés, dépeints par la musique et la danse. C'est à partir de 3 ans. C'est un spectacle assis et c'est 5 euros. 3 ans et leurs parents, les enfants. Même jour, 20h45, toujours au Bourneau, le 7e jour, 2 est par Alberto Garcia Sanchez, c'est un seul en scène. Alberto est un virtuose de la langue française, des expressions, des sous-textes, et traite avec beaucoup d'humour des sujets graves. Le 7e jour nous invite à considérer que peut-être le paradis n'est pas perdu. Je ne sais pas. Qu'il est quelque part.
Sous des panneaux photovoltaïques,
c'est ça,
peut-être
c'est ça. Qu'il est quelque part maltraité, privatisé et surtout oublié qu'il est possible que ce soit lui, le paradis, qui ait été expulsé de l'humanité, expulsé de nos pensées, de nos rêves et qu'il n'attend qu'un geste pour envisager un nouveau retour. Qu'on ait le courage de l'imaginer, c'est ça le geste. C'est à partir de 12 ans, ça dure 1h20 et c'est un spectacle assis. Et c'est 10 euros, réservation pour tout ça auprès de l'AMAC.
Qui est l'association qui porte le festival Parole en Festival.
Ouais. Donc, on est toujours le 29, c'est toujours mercredi. C'est au Vence, l'école des parents propose Éduque Écran de 14h à 16h.
Demain. Merci.
Pour les
L'école des parents, donc, qui propose toujours des débats très intéressants, des rencontres. Donc, Éduque Écran, j'imagine.
Jérôme Hoffman, musicien et compositeur de la compagnie Braquage Sonore, pour un atelier de décryptage sonore. Ah non, c'est ça ? Non, j'ai fait un mélange.
Bien sûr. Mais bon, alors, en tout cas, l'école des parents. L'école des parents. Alors, on répète. Au L'école Vence. Des parents, mercredi, au Vence, pour un éduque-écran. J'imagine comment on éduque les enfants, mais aussi les parents, à moins d'écran ou mieux d'écran.
Voilà, à l'école élémentaire. Mmh. Bon. un truc. Il y a des choses qui sont collées sur mon papier, tu vois. Alors, expo au Vence. Hein. Je reste au Vence, d'accord ? C'est Lisa Abbe. Carte blanche à Lisa, talentueuse dessinatrice, illustratrice, graphiste et autrice de bande dessinée. Le vernissage festif, c'est jeudi soir à 19h. C'est un moment convivial et décontracté. Vous aurez la possibilité de participer à notre célèbre tombola, la Lisabola, une tombola très scrupuleusement organisée par la Bicoque des Jeux. Animé par notre irremplaçable et foireux huissier de justice, Maître Richard, l'huissier sans maîtrise. L'expo, c'est du 31 mai au 12 juin. Et le vernissage, donc, c'est jeudi, à 19h.
Donc, et c'est à la... C'est au Vence.
C'est au Vence.
À la vitrine Flo, je crois.
Merci, Sophie. Je pédale. Non, mais c'est exprès. Deuxième Vélorussion en Sud-Ardèche.
Oh, en fait, tout cela pour aboutir à ce point d'orgue formidable.
Ouais, pas
bravo,
mal.
Marie. Non, mais... Il y a de l'investissement.
Ouais, c'est
Il y a de l'investissement.
C'est de ta faute, tu me fais rire et du coup, je suis décapsulée. Dimanche, donc, la Vélorussion. C'est dimanche de juin, de l'Argentière au Vence. C'est un rendez-vous coloré et bruyant par le collectif Deux roues, une voix. Départ à 9h de l'Argentière sur le... Non, rendez-vous à 9h à l'Argentière sur le parking du supermarché pour un départ groupé à 9h30. Les étapes, donc, départ à 9h30 de l'Argentière. À 11h, pause à Rosière sur le parking du cinéma. Les encas tirés des sacoches, point d'eau et WC à dispo. À 12h30, pause déjeuner à la Blachère. Toujours tirer des sacoches le repas, et il y a de l'eau et des WC. À 14h, départ en concerto de sonnette direction Les Vence, et à 15h30, arrivée au Vence. Tour de la place Ollier, en musique et couleurs, et voilà. Rendez-vous devant le centre d'accueil pour un goûter festif, offert et des animations. Le cortège est festif, familial et joyeux. Les enfants à vélo sont les bienvenus, et la vitesse du cortège sera adaptée. Vous pouvez joindre le cortège n'importe où sur le parcours, Rosière, la Blachère, jusqu'au Vence. N'oubliez pas vos gourdes, ni de réviser les vélos pour éviter les galères sur le trajet.
Il n'y a pas des petits ateliers de réparation de vélos sur,
bah ça, c'est
sur
en
la
arrivant,
route
si t'es... Ah. Non, bah sur la route, non. Sur la route, on avance. D'ailleurs, on avance, on n'a pas besoin d'essence. C'est le slogan. Et voilà, j'ai presque fini. Il reste une petite cerise sur le bazar.
Il me semble des places à gagner, peut-être.
Exactement, pour le concert de l'Orchestre National d'Auvergne, vendredi 31 mai.
Dont nous avons parlé hier au Théâtre des Quinconces de Valls.
Exactement, à 20h30. Programme de balade dans les paysages de Grande-Bretagne. Le mot de passe, c'est Britain.
Britain.
Mm. C'est bien.
Britain, comme le compositeur.
Exactement, lui.
Mmh. Très bien. Ok, donc Britain, vous envoyez un mail à contact@frequence7.net avec le mot de passe, donc Britain, pour gagner deux places pour le concert qui aura lieu donc vendredi à 20h30 ou 20h45 au Théâtre de Valls.
Et dans le courriel, vous mettez bien vos noms et prénoms et numéro de téléphone.
Et numéro de téléphone.
Voilà.
Merci beaucoup, Marie.
Je t'en prie.
Nous en avons...
C'est fini.
Tout à fait. Merci beaucoup. Mais on continue, alors, non pas avec l'Orchestre National d'Auvergne, mais en musique, quand même.
To be the one that everybody knows. How does it feel?
quelle reine, Queens de The Gems, issue du premier album Phoenix, sorti en janvier dernier. C'est une nouveauté dans la playlist de Fréquence 7. Merci Sylvain pour la proposition féministe. Nous sommes avec Pascal Harder, qui est issu du collectif d'habitants qui s'est créé à Saint-Didier-sous-Aubenas après la décision prise par la mairie de créer un projet de centrale photovoltaïque de presque 3 hectares sur la commune, autorisé par la commune, vous allez nous expliquer. Eh bien, d'abord, on va mettre un petit peu planter le décor. Comment avez-vous appris cette information ?
Alors, le projet planait déjà depuis quelque temps sur la commune. Il y a 2 ans, un promoteur était venu, le nom de Boralex, qui est une entreprise canadienne qui est très bien implantée, et proposait un projet de 11 hectares. À l'époque, la mairie et le conseil municipal s'étaient opposés à ce projet, et donc voilà, on pensait que c'était à peu près resté là.
Pour quelles raisons s'était-il opposé au projet ?
Alors c'était pour des questions paysagères, pour des questions agricoles, et parce que le plan local d'urbanisme ne le permettait pas. Il aurait demandé des modifications juridiques et du coup ce n'était pas à l'ordre du jour. Donc la mairie, par son conseil municipal, avait mis un avis défavorable et apparaît sur le bord d'une des parcelles, voilà, qui fait à peu près 3 hectares, un peu plus, un panneau indiquant qu'ils ont commencé des travaux pour des persiennes photovoltaïques sur 28 mètres carrés. Et donc jusqu'à là, on se dit, bon, ils vont faire un essai, grand bien leur fasse, ils vont faire un abri pour les chevaux qui sont en train de paître à ce jour là-bas. 28 mètres carrés, voilà, c'est un abri pour les chevaux, quoi. Avec des panneaux au-dessus, ils essayent, regardent si c'est pertinent ou pas. Et puis à un moment donné, passe le propriétaire du terrain chez nous. Personnellement, je suis voisin de cette parcelle. Et il indique que, non, tu t'es planté de virgule, c'est pas 28 mètres carrés, c'est 2 hectares 7. De persiennes photovoltaïques. Et donc là, on est un peu interpellé, et puis on se rend à la mairie, on consulte le permis de construire, qui effectivement est très 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 clair, beaucoup plus que ne l'est le panneau qui est légalement demandé pour chaque permis de construire sur la parcelle, avant de commencer les travaux.
Donc un projet que vous découvrez, c'est là, ça fait partie du problème, nous allons en parler, sans consultation préalable, une information certes légal, mais sans plus. Voilà. Vous découvrez ce projet qui est revenu par la fenêtre après avoir fermé la porte 2 ans plus tard.
C'est ça, il est vraiment revenu par la fenêtre. C'est-à-dire qu'aucun des riverains que du coup nous sommes allés mobiliser après, en disant écoutez, on a appris un truc, il faut qu'on en discute, venez, on se retrouve devant le panneau d'information, on regarde, on vous explique ce que ça va être. Et évidemment, on a aussi pris rendez-vous avec la mairie pour demander des explications. Avant de tirer à boulet rouge, on commande pour demander des explications. Et effectivement, tout a été fait, c'est-à-dire dans les règles. On a signé un permis de construire, il est affiché devant la mairie parmi les 18 papiers en écriture noire et blanche. C'est un peu perdu là-dedans et on peut aller consulter le document en mairie. Bah, jusqu'à là, oui. Sauf qu'il y a 2 ans, ça a mené à un certain émoi au sein de la commune. Mais non, du coup, cet avis du conseil municipal. 2 ans après, on découvre que finalement, c'est quand même passé, que des membres du conseil municipal n'ont pas été informés de la chose, c'est pas repassé en commission agriculture. Voilà, il y a cette surprise-là, et une fois qu'on se retrouve avec les autres riverains autour du panneau, on se dit, bon, on peut pas laisser couler ça comme ça. Ça a un véritable impact sur le quartier, ça a un impact sur la dimension agricole de cette plaine, qui est une des dernières plaines un peu agricoles autour d'Aubenas. Donc on a ce croissant fertile qui part de Saint-Didier-sous-Aubenas, qui va jusqu'à Saint-Sernin et Vauguet. Et en fait, c'est pas neutre, parce que si on commence avec cette parcelle-là, rien ne nous dit que derrière, en fait, on va pas continuer à couvrir toutes les autres parcelles qui aujourd'hui sont exploitées en kiwi, avec des persiennes photovoltaïques qui, finir de planter le décor, sont des persiennes, donc c'est juché à 5 mètres de hauteur sur des piliers en acier qui sont enfoncés dans le sol, et au-dessus desquels on vient poser des panneaux photovoltaïques qui ne couvrent même pas complètement la surface, mais juste à 45%. Donc c'est bien parce que ça permet de laisser passer un peu de lumière, c'est l'argument des promoteurs. En même temps, c'est pas bien parce que du coup, on a quand même une installation photovoltaïque considérable pour simplement 45% de la surface qui est couverte.
Alors, on va parler justement de ces panneaux photovoltaïques. Je le disais en introduction, c'est un concept, un mot qui a été inventé par l'un des promoteurs justement de ces et l'un des commerciaux finalement de ces panneaux photovoltaïques agrivoltaïques. Donc c'est Christian Dupraz qui est chercheur à l'INRAE qui a inventé ce terme, qui a avec l'entrepreneur Antoine Nogier, et ils ont créé le groupe industriel dont vous parliez tout à l'heure, SunAgri, qui est maintenant une filiale d'Eiffage. Voilà, donc ils ont créer ce concept qui semble allier à la fois l'agriculture et la production d'énergie renouvelable. On va voir que ce n'est pas sans difficulté. Donc ça, c'est déjà un premier problème, c'est-à-dire que cet agrivoltaïsme qui est rentré dans la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, l'APER, la loi donc en mars 2023, a été constituée du coup par ces promoteurs dont je parlais à l'instant.
Mmh. Oui, ils ont proposé un concept qui permet justement de ne pas tomber dans l'écueil des simples installations de panneaux photovoltaïques dits au sol, qui ont plein de contraintes particulières. La contrainte principale du coup étant d'avoir une pertinence agricole avec l'installation agrivoltaïque, donc justement sur ces structures, ces pylônes en acier, on va avoir de la hauteur, donc on a l'argument de pouvoir cultiver en dessous. Là dans notre cas il s'agirait de planter des kiwis, comme c'est déjà le cas sur les parcelles environnantes. On peut planter autre chose, je prendrai l'exemple d'une des grandes centrales dans les Deux-Sèvres où l'exploitation de fraises en dessous a été un échec cuisant. Et donc aujourd'hui, c'est un désert, le sol est complètement compacté, sablonneux, il n'y a rien qui pousse, certainement pas des fraises. Et par contre, au-dessus, les panneaux continuent de produire. Donc ça reste une espèce de grand hangar qui reste en plein milieu.
Alors, effectivement, là, on touche à l'un des problèmes. On pourrait se dire, en effet, ce sont les arguments portés, justement, par les promoteurs de l'agrivoltaïsme, on pourrait se dire, bon, très bien, ça va faire de l'ombre, ça va peut-être protéger du gel, protéger de certains insectes nuisibles. C'est assez intéressant, un document interne à cette société SunAgri est tombé dans les mains d'une revue qui s'appelle Silence. Cette société, donc SunAgri, s'est rendue compte elle-même que ce n'était pas si positif que ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, en effet, ce rapport interne, il pointe quelques éléments assez factuels, comme la résistance des plantes en dessous, en disant que les feuilles sont plus fines, elles sont plus sensibles à la lumière du soleil, donc elles brûlent plus vite. La qualité des fruits s'en retrouve amoindrie. On se retrouve avec des fruits qui sont moins sucrés, qui sont moins gustativement moins intéressants, peut-être aussi moins denses. Et donc, c'est particulièrement surprenant pour nous, qui du coup regardons ce projet qu'on nous présente comme étant expérimental. Ça nous permettrait de prendre des mesures, est-ce que c'est pertinent de cultiver des kiwis en dessous, etc. Alors qu'en fait, le retour d'expérience existe déjà, et en plus, il est négatif. Mm-hmm. Donc ça nous pose d'autant plus questions.
Mm-hmm. C'est un rapport interne, donc pour préciser, c'est un rapport interne de janvier 2023 qui porte sur les premières expériences entre 2019 et 2022, donc avec 3 ans d'expérience. Effectivement, ce que vous disiez, des fruits de moins bonne qualité. Donc, en l'occurrence, c'était des pommiers et des cerisiers. Ils se rendent compte qu'il y a 20% de sucre en moyenne dans ces fruits. Pour le gel, eh bien, il s'avère que les panneaux réchauffent à peine. C'est plus 0,3 degrés, ce qui, de toute façon, ne sera pas suffisant en soi pour réchauffer les...
C'est moins intéressant qu'un filet, oui.
Pour le soleil, on se rend compte que sans panneaux, on se rend compte, c'est-à-dire que cette société Sun Agri se rend compte que finalement le vent homogénéise la température, donc il n'y a pas de bénéfice par ces panneaux photovoltaïques. Et puis concernant les attaques d'insectes, là aussi, ils se rendent compte que finalement, il y a d'autres espèces qui n'étaient pas là sur des parcelles témoins, comme les punaises, par exemple, liées à des traces de doigts lors de la récolte. Et donc, ça pose des problèmes supplémentaires. Donc, en fait, tous les arguments, c'est ça qui paraît incroyable, c'est que ce document interne qui date de janvier 2023, finalement... ils n'en tirent pas de conclusion, enfin ils continuent leur...
Ce qui nous mène vraiment à penser que l'intérêt n'est pas agricole, au-delà du dossier qui est déposé ensuite pour un permis de construire, qui est considérable, hein. On parle de 200 pages de dossier pour un permis de construire, c'est quand même assez gigantesque, vous construisez un garage, ça n'a pas la même portée. Mais du coup, on se retrouve aussi avec une étude naturaliste sur zone qui est faite en interne, c'est-à-dire que l'entreprise, le promoteur, fait sa propre analyse environnementale de cette parcelle-là, son impact paysager, et puis du coup c'est difficile de le remettre en question, parce que aujourd'hui l'administration ou les associations de défense environnementale n'ont pas le temps, l'énergie et les ressources nécessaires pour aller refaire ces études derrière. Du coup on prend ce qu'il y a, et puis on se dit bon, effectivement, c'est pas top, mais ça va. Et en vrai, oui, quand vous faites une étude au mois de juin et que la végétation est bien touffue, c'est un dispositif qui est bien dissimulé. Pendant le reste de l'année où les arbres ne sont pas aussi touffus, il est bien visible et, comme je vous disais, ça reste un hangar de 5 mètres de hauteur. C'est pas quelque chose de légèrement ajouré. Persienne, c'est un mot très, très poétique, mais c'est beaucoup plus que ça.
La loi qui encadre tout cela, donc la loi APER sur les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable du 10 mars 2023, cette loi fixe un cap mais affirme que la production agricole doit rester prioritaire. Or, vous mettez notamment en exergue le fait que la rentabilité de la production d'électricité sur un terrain est 10 fois plus importante que la rentabilité issue notamment de production fourragère, et que ça ne peut que pervertir d'une certaine manière ces terrains à destination agricole au départ.
Tout à fait. La valeur d'un terrain agricole aujourd'hui, on la mesure à sa productivité. On va prendre la base de la base d'une production agricole, c'est-à-dire du fourrage. On va faire du foin sur un hectare pour à peu près 300 euros. Bon an, mal an, 350 selon le prix de la poudre de foin, mais ça reste quelque chose qui est assez supervisable. Aujourd'hui, la moyenne d'un loyer pour un hectare couvert en photovoltaïque en France métropolitaine, c'est 3000 euros. C'est la moyenne. Et donc, évidemment, on parle bien de terrains qui sont des terrains plats. On ne va pas trop mettre de panneaux photovoltaïques, certainement pas de persiennes sur une zone qui est montagneuse ou un peu trop compliquée. C'est des terrains qui sont bien ensoleillés et des terrains qui sont accessibles pour les questions de maintenance, d'installation évidemment, donc d'une infrastructure routière. En gros, les meilleurs terrains agricoles. Bon, et donc se pose la question de quelle est la destination de ces terrains agricoles, qui depuis le début de l'industrialisation ont toujours été les terrains sur lesquels l'urbanisation est venue grignoter. Maintenant on a une loi de zéro artificialisation nette. Mais du coup, ces terrains-là ne sont absolument pas protégés, si j'ose dire. Bien au contraire, du coup, ils sont ouverts à ces installations-là, parfois sous véritable alibi agricole, même si on a des associations de défense environnementale, comme la Frappelin en Ardèche, ou du coup, les services de l'État qui sont là et qui tempèrent un peu en disant « Attention, si c'est juste un alibi, en fait, on sera vigilant. » Mais il y a des choses qui peuvent passer entre les mailles du filet.
Ce que vous pointez quelque chose, c'est que vraiment, le consensus n'est absolument pas là, à quelque niveau que ce soit.
Le seul endroit où il y a un consensus, c'est au niveau des promoteurs. Au niveau local, il n'y en a pas, que ce soit ici, que ce soit à la Blachère, que ce soit à la Villieu, il y a forcément des réticences pour différentes raisons. Dans les mairies, c'est quelque chose, y compris dans la nôtre, hein, c'est quelque chose qui n'est pas du tout partagé, qui n'est pas du tout automatique. Même dans les défenses, dans la défense de l'environnement, les différents collectifs et associations ne sont pas toujours d'accord, parce que le photovoltaïque, ça veut dire moins de nucléaire, donc ça tiraille un peu. À la chambre d'agriculture, c'est pareil. Vous avez des nouvelles générations d'agriculteurs qui sont installés, qui ne sont pas du tout favorables à ces installations photovoltaïques au sol ou sur persienne, alors qu'une génération plus âgée l'est beaucoup plus. Je prends un exemple très simple. Vous êtes un agriculteur sur la fin de votre carrière, vous savez pas trop comment vous avez terminé votre carrière, on vous propose un loyer de 3000 euros par hectare, vous en avez une trentaine, ça commence à devenir intéressant. Et enfin, même dans les services de l'État, si aujourd'hui on a une loi qui cadre ça, même là, on a des arrangements possibles qui du coup posent question dans différentes structures. Et donc ça pose question, cette absence de consensus à tant d'échelles différentes. Dire, bon, avant de commencer à mettre des panneaux photovoltaïques sur des terrains agricoles, et c'est bien ce dont il est question, et pas du tout question de mettre un stop à la couverture photovoltaïque sur les parkings, sur les zones déjà artificialisées, sur les zones polluées, qui elles, pour le coup, devraient être prioritaires. Elles le sont au titre de la loi APER, mais on constate que du coup, c'est pas toujours forcément le cas.
Oui, c'est bien d'insister en fait. Ce n'est pas contre le photovoltaïque, mais c'est contre le photovoltaïque en lieu et place de terres agricoles.
C'est contre le photovoltaïque qui est placé n'importe comment sur des terrains agricoles qui, du coup, perdent aussi de leur valeur et qui, bah, c'est dommage, sont les terres agricoles les plus intéressantes, les mieux exposées, les plus fertiles.
Quand on parlait de non-consensus, le 17 mai dernier, le président de la région Normandie, Hervé Morin, qui n'est pas non plus un extrémiste gauchiste, allait déposer un recours devant le Conseil d'État contre le décret relatif à l'agrivoltaïsme, puisqu'il il dénonce depuis plusieurs mois les dégâts irréversibles que pourraient causer des installations agrivoltaïques sur l'agriculture normande, en l'occurrence, sa région.
C'est absolument passionnant. On a du coup quelqu'un qui est dans une situation de décision d'envergure et qui dit non, vous êtes en train de faire fausse route, vous vous plantez, pas seulement pour des aspects paysagers, parce que il y a la dimension NIMBY, not in my backyard, pas chez moi, faites-le ailleurs, je veux pas le voir chez moi, qui peut être très facilement reproché. En Normandie, il a une région gigantesque sur laquelle il a de l'impact. Je pense que sa décision n'est pas non plus juste faites-le en Bretagne et pas en Normandie, quoi. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui, comme vous le disiez, sont pas non plus des extrémistes gauchistes, qui prennent ce genre de position-là, très affirmée, en disant non, en fait, on va aller contester ça, c'est pas parce que c'est passé aujourd'hui dans la loi qu'on ne peut pas s'y opposer, parce que ça ne fait pas sens.
Et vous, aujourd'hui, au sein de ce collectif, où en êtes-vous ?
Alors, on a commencé par l'information, parce que c'est la clé, c'est-à-dire commencer à partager cette nouvelle donnée, qui est un projet qui est beaucoup plus grand que ce que l'on pensait. Ensuite, on a commencé à lancer une pétition sur préservons les champs de Saint-Didier-sous-Domelin, pour partager aussi l'information. Aujourd'hui, on est à peu près 600 signatures, ce qui, pour une pétition à Saint-Didier-sous-Domelin, est déjà pas mal du tout.
Et puisqu'il y a à peu près 1000 habitants à Saint-Didier-sous-Domelin, à peine.
Oui, un peu moins, effectivement.
Et, pétition qu'on peut trouver où ?
Pétition que vous pouvez trouver sur change.org.
D'accord.
Sous le nom, voilà, préservons les champs de Saint-Didier. Et du coup, la prochaine étape, c'est d'aller déposer un recours au tribunal administratif. Donc ça, c'est prévu cette semaine, avec un avocat, pour justement contester ce permis de construire sur des plans réglementaires, la manière dont le dossier a été constitué, déposé, dans quel cadre, quel timing, qui pose question. Et du coup, sur la dimension environnementale également, de dire, ben, en fait, vous allez installer quelque chose, vous le faites un peu n'importe comment, on conteste cette pertinence-là.
Ce qui est proposé à Saint-Didier-sous-Domelin, est-ce que c'est présenté comme une expérimentation ou pas ?
C'est présenté comme une expérimentation et c'est ce qui permet justement de passer entre les mailles du filet. C'est parce que c'est une expérimentation qu'on dit, bon, on va faire une exception, essayons, après on verra bien si ça marche. Et si ça marche pas, vous devrez le démonter. Bon, on sait comment c'est le démantèlement après un échec. On aura le temps de voir s'ils ne vendent pas encore de l'électricité, si ça venait à être arrêté. Mais on se retrouve donc avec un projet expérimental, et sous ce couvert expérimental, il y a plein de choses qui passent. Et donc l'autre dimension, c'est que c'est expérimental, donc en fait on est aussi un peu la zone pilote. Il y a d'autres structures similaires qui existent, notamment plus dans le sud, entre le Gard et le Vaucluse. Mais sur le territoire ardéchois, une telle installation n'existe pas encore, à proprement parler. Donc tout le monde regarde ça, et c'est pour ça que c'est un peu différent des panneaux photovoltaïques au sol. On est là sur une structure particulière, et donc tout le monde regarde ça, mais en même temps, personne ne veut y mettre des billes. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ouf, on va rester prudent, oui, avancer, mais ce ne sera pas de notre responsabilité si ça ne fonctionne pas. » Donc, en fait, on ne voit justement pas ce consensus, on ne voit pas cet entrain-là, c'est-à-dire « Non, non, il faut y aller, c'est quelque chose de fonctionnel, on ne court pas de risque, allons-y. » C'est pas du tout ça.
S'il y a une expérimentation, ça veut dire qu'il y a une évaluation, c'est-à-dire qui fait l'évaluation et comment ça peut se passer?
Alors, il y a une évaluation qui a été négociée en commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, ce qu'on appelle le CDPNAF. Et donc, ce suivi-là, il va devoir être fait par une instance indépendante. Donc, ça ne peut pas être les services de l'État, parce que du coup, ils sont aussi occupés par plein d'autres choses. Ils vont prendre le retour d'expérimentation à la fin, ils vont le lire. Mais ça doit être une entité indépendante qui doit contrôler ça et faire remonter ensuite annuellement à la CDPNAF les conclusions du suivi agronomique.
Vous êtes serein par rapport à ça ?
Officiellement, je vais dire oui, parce que sinon, je ne voudrais pas être attaqué en diffamation. Mais moi, ça me pose toujours question quand on a du coup quelque chose qui pourrait être géré de manière complètement neutre par les structures de l'État, dont on connaît les limites aujourd'hui aussi, ils n'ont pas forcément le personnel pour ça. En revanche, quand on paye quelqu'un pour aller faire une analyse, on peut faire dire ce qu'on veut à l'analyse. Je ne dis pas que ce sera le cas là, mais j'appelle à la prudence.
D'accord. Merci beaucoup, Pascal Ardin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
C'est aujourd'hui un projet. Nous sommes assez convaincus que ça peut être plus que ça, d'une part parce que c'est une expérimentation, donc nous aussi notre position est une expérimentation. Il n'est absolument pas exclu que ça se présente sur d'autres territoires dans le sud Ardèche, dans le nord Ardèche. C'est des réalités un peu différentes, c'est autre chose, mais toutes les communes doivent aujourd'hui faire remonter, ils devaient déjà le faire jusqu'au 31 décembre, mais ils ont droit à un petit délai, les zones d'accélération des énergies renouvelables. Et donc, les mairies doivent délibérer et dire, voilà, ce sera cette zone-là, et le faire remonter en préfecture. Peu de communes l'ont fait aujourd'hui. Certaines l'ont fait de manière assez futée. On dit, ce seront les zones déjà urbanisées, donc on pourrait mettre ça sur des zones qui sont déjà artificialisées. Et d'autres disent, on va un peu le faire là. Et du coup, j'invite vraiment à aller voir dans les mairies quelles sont ces zones d'accélération des énergies renouvelables qui ont été remontées par le conseil municipal, parce que parfois on peut tomber sur des surprises. Et donc c'est exactement ces zones-là qu'il va falloir surveiller en priorité pour que justement du photovoltaïque et de l'agrivoltaïque ne soient pas implantés n'importe comment, mais en priorité sur des zones qui soient déjà, comme j'ai dit, artificialisées, polluées ou sans aucun intérêt comme des parkings.
Merci beaucoup, Pascal Ardin, donc du collectif des habitants de Saint-Didier sous Aubenas. Merci à vous, auditrices, auditeurs. Merci à toi, Sylvain, pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de Fréquence 7. À 13h, vous retrouverez Drôle de Dame, qui se penche aujourd'hui à la fois sur les élections européennes, comment les citoyens peuvent s'impliquer dans les élections européennes. Tu me dis non.
C'était la semaine dernière, il me semble, Drôle de Dame.
Non. Non, elles en remettent une couche aujourd'hui. Je les ai interrogées hier. Elle parle aussi de la grève des cantiniers, ça te dit?
Oui, mais c'est pas cette semaine, c'était la semaine dernière et peut-être la semaine prochaine.
D'accord, merci, avec les rediffusions. Bref, Drôle de Dame, c'est toujours bien, à 13h. À 15h, c'est le Telex, vos messages au 04 75 93 30 25. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, c'est Polémix et la voix off, qui se penche aujourd'hui sur les violences et harcèlements sexistes et sexuels. L'épisode 3, violences majoritairement masculines, victimes majoritairement féminines. Et à 21h, un Metal Zone spécial Blockheads que Greg et Isa, surtout Isa, a interviewé au SILAC l'été dernier. Bon programme et bonne musique sur Fréquence 7. Ciao.